Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette très importante série qui concerne de mieux connaître Dieu, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Chers amis, les non-croyants de tous bords font tout, et cela même auprès des enfants, pour discréditer Dieu lui-même. Mon problème, il n'est pas d'essayer de prouver si le récit d'Adam et Ève est un mythe ou si c'est la vérité, mais mon devoir est d'essayer de vous avertir que pour nous, les humains, dans l'état où nous avons laissé cette planète, tout ne se risque pas de se terminer pour nous, comme par exemple pour le rat. Juste pour que vous puissiez y réfléchir un peu. Il est vrai que de plus en plus de personnes posent la question: qu'est-il arrivé aux dinosaures? Que nous dit la Bible sur les dinosaures? Que sait-on sur eux, leur origine, leur époque, leur mode d'alimentation, leur faim et leurs fossiles? Ce sont les dinosaures qui sont utilisés mieux que toute autre chose pour endoctriner les adultes et les enfants dans l'idée de millions d'années d'histoire terrestre, si ce n'est pas des milliards, et la Bible n'en propose pas moins un cadre d'explication en milliers d'années, tout en résolvant le mystère de leur époque et de leur destin. Certains textes clés sont Genèse, chapitre 1, versets 24 et 25, ainsi que Job, chapitre 40, versets 10 à 19. La paléontologie, l'étude des fossiles, ressemble assez fort à la politique. Les passions y ont beaucoup à dire et il est très facile d'arriver à des conclusions très différentes à partir des mêmes faits. Un paléontologue qui croit au récit de la Bible et qui déclare quelle est la parole de Dieu arrivera à des conclusions qui différeront de celles d'un athée qui rejette totalement la Bible. Nier volontairement que la Bible soit la parole de Dieu, 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 7, ça, c'est la racine de beaucoup de disputes relatives à la science historique. Beaucoup de personnes pensent que la Bible est simplement un livre religieux, source de salut. Mais elle est beaucoup plus que cela. La Bible raconte l'histoire de l'univers et elle nous parle également de l'avenir de cet univers. Elle nous relate les commencements du temps et les événements de l'histoire, comme l'introduction du péché et de la mort dans le monde, le temps où toute la surface du globe terrestre a été détruite par l'eau, et le don des différentes langues qui ont, on peut dire, presque explosé à la tour de Babel, le récit de la venue du Fils de Dieu, venant sous forme humaine, sa mort et sa résurrection, ainsi que les nouveaux cieux et la nouvelle terre à venir. Il n'y a finalement que deux manières de penser, soit l'on commence avec la révélation de Dieu, la Bible, que l'on considère comme le fondement de toute pensée biologique, histoire, géologie, etc. Et l'on arrive alors à une conception chrétienne du monde qui nous entoure, soit l'on commence avec les croyances humaines, par exemple, l'histoire évolutionniste que l'on considère comme le fondement de toute pensée, et l'on arrive alors à une conception laïque, évidemment. La plupart des chrétiens ont été endoctrinés par les médias et les systèmes éducatifs et raisonnent d'une façon laïque. Ces chrétiens ont alors tendance à juger la Bible selon cette conception au lieu de laisser la Bible façonner leur pensée. Notez Romains chapitre 12 versets 1 et 2 et Éphésiens chapitre 4 versets 20 à 24. Il est important de noter les citations bibliques pour que vous puissiez vérifier. La Bible dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science » Proverbes chapitre 1 verset 7 et « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel » Proverbes chapitre 9 verset 10. Si l'on jette un regard évolutionniste sur l'histoire, regard sans témoin ni témoignage, toute explication sera teintée par cette conception, y compris celle donnée par les dinosaures. Mais si l'on jette un regard biblique sur l'histoire, regard qui se pose sur le récit donné par un témoin universel, c'est-à-dire Dieu, alors une pensée tout à fait nouvelle en résultera, qui jugera différemment. Et rappelons-le, la même évidence. Donc, partout dans le monde, on trouve des os fossilisés de ce qu'on appelle les dinosaures. Beaucoup de ces découvertes ne consistent qu'en quelques fragments d'os, mais on a parfois trouvé des squelettes presque complets. Les scientifiques sont arrivés à décrire beaucoup de dinosaures en se basant sur les caractéristiques distinctives comme la structure du crâne, des membres, etc. Mais il semble quand même y avoir un certain ou une certaine hésitation quant à savoir ce qu'on entend exactement par dinosaure. D'où viennent les dinosaures? La Bible dit qu'au sixième jour de la création, Dieu a créé différents types d'animaux terrestres. Genèse chapitre 1, versets 24 et 25. Comme les dinosaures sont des animaux terrestres, ils sont compris dans cette création spécifique, me semble-t-il. Et voyez-vous, la Bible dit que Dieu a créé toutes choses en six jours normaux, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Il a créé les animaux terrestres, y compris les dinosaures, le sixième jour, selon la Genèse, chapitre 1, versets 24 et 25. Aussi remonte-t-il toutes ces bêtes énormes à environ 6000 ans, date approximative de la création qu'on obtient en additionnant les années dans la Bible. Comme le tyrannosaure, ce fameux Tyrannosaurus rex, c'était un animal terrestre et que Dieu a créé sous, on peut dire, il a créé aussi bien ceux-là que les autres, tous les animaux terrestres, le sixième jour. Donc Dieu a donc créé le tyrannosaure rex le sixième jour. En outre, quand nous lisons la Bible, nous nous apercevons qu'avant l'existence du péché, il n'y avait ni mort, ni sang versé, ni maladie, ni souffrance. Et en prenant connaissance du contenu de la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et en interprétant l'Écriture sainte par l'Écriture, on arrive à la conclusion que la mort et tout acte sanglant, quel qu'il soit, entre les hommes et les animaux, ne sont entrés dans le monde que après le péché d'Adam. Donc la première mort d'animal s'est produite quand Dieu a versé le sang d'un animal dans le jardin d'Éden pour en faire des habits pour Adam et Ève. Genèse chapitre 3, verset 21. Nous avons là une image de la rédemption, oui, une image de la rédemption, l'acte préfigurant le sang de Christ versé et qu'il a versé pour nous à la croix. Il ne peut donc pas y avoir eu de reste d'animaux avant le péché. Voyez-vous, autrement l'évangile n'a plus de raison d'être. Et cela signifie que les dinosaures ont dû mourir après que le péché a fait son entrée dans le monde, pas avant. Ou si les os de dinosaures ne peuvent pas être âgés de millions d'années, car Adam a vécu il y a quelques milliers d'années seulement. En Genèse, au chapitre 1, verset 21, la Bible dit « Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent ». L'expression « grand poisson » décrit peut-être les grands dragons des mers, animaux de type dinosaures marins. Il y a d'autres passages concernant des dragons qui vivent dans la mer et ces monstres sont donc décrits au psaume chapitre 74, verset 13. « Il tuera le monstre » qui est dans la mer. Ésaïe 27, verset 1. Bien que le mot dinosaure ne se réfère que à des animaux qui vivent sur la terre, les reptiles marins et les reptiles volants sont souvent associés aux dinosaures. Les dragons marins englobent peut-être des animaux de type dinosaure tels que le mosasaure. Job 41 décrit par exemple un grand animal qui vivait dans la mer, le Léviathan, qui crachait même du feu. Ce dragon peut avoir été quelque chose comme le puissant chronosaure, long de 17 mètres. Ésaïe chapitre 30, verset 6, parle également d'un dragon volant. Il peut ici être question d'un ptérodactyle qu'on qualifie généralement de dinosaure volant. Peu de temps après le déluge, Dieu montrait à un homme appelé Job combien lui, le Créateur, était grand en lui rappelant un des plus grands animaux qu'il avait créés. Voici donc le behemoth que j'ai fait aussi bien que toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Vois donc que sa force est dans ses flancs et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il remue sa queue semblable au cèdre, les tendons de ses hanches sont entrelacés, ses os sont des tubes d'airain, ses membres sont comme des barres de fer. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, son Créateur lui a donné son épée. Job, chapitre 40, verset 10 à 14, selon la traduction Osterwald de 1996. Donc, à l'origine, avant le péché. À l'origine, avant le péché, tous les animaux, y compris les dinosaures, étaient végétariens. Selon la Genèse, chapitre 1, verset 30, et là, il est déclaré, « Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Cela signifie que même le tyrannosaure rex ne mangeait, avant l'entrée du péché dans le monde, je dis bien avant l'entrée du péché dans le monde, que des végétaux. Certaines personnes font objection à cela en disant que vu les grandes dents du tyrannosaure rex, cet animal doit les avoir utilisées pour attaquer d'autres animaux. Mais les crocs acérés d'un animal ne disent rien sur son mode d'alimentation. Ils disent simplement qu'il a des crocs acérés. Beaucoup d'animaux dotés de dents pointues sont fondamentalement végétariens. Par exemple, le panda géant a des dents pointues comme celles d'un carnivore, mais il mange du bambou. Il se peut que les dents des pandas aient été spécifiquement faites pour manger du bambou. Pour expliquer pourquoi un panda géant a des dents comme un carnivore, tout en ne mangeant que du bambou, les évolutionnistes sont obligés de dire que le panda géant a évolué à partir d'un carnivore et puis il s'est tourné vers le bambou. Pourquoi pas? Les différentes espèces de chauves-souris se nourrissent de fruits, de nectar, d'insectes, de petits animaux et de sang. Mais leurs dents ne renseignent pas sur leur mode d'alimentation. Les ours ont des dents semblables à celles d'un grand félin, par exemple un lion. Mais certains ours sont uniquement végétariens, alors que d'autres, voire la plupart, sont principalement végétariens. Avant le péché, Dieu qualifia le monde de très bon. Genèse chapitre 1, verset 31. Certaines personnes ont de la peine à accepter cette idée d'harmonie parfaite à cause de la chaîne alimentaire du monde actuel. Cependant, on ne peut pas prendre ce monde maudit par le péché, cette mort et ces luttes qui en résultent dans le but d'en faire des arguments pour rejeter le récit biblique des origines. Le péché a tout, absolument tout modifié. Et c'est la raison pour laquelle saint Paul décrit que la création présente soupire. Romains chapitre 8, verset 22. Il faut regarder le monde à travers les yeux de la Bible pour comprendre cela. Comment les animaux ont-ils pris place dans l'arche? Beaucoup de personnes voient dans les dinosaures des créatures, on peut dire, tellement grandes qu'elles n'auraient jamais pu trouver place dans l'arche. Les dinosaures, souvenez-vous, si vous avez étudié un peu, ils pondent des œufs et le plus grand œuf fossile de dinosaure découvert et il fait environ la dimension d'un ballon de football. Même les plus grands dinosaures étaient très petits au moment de leur éclosion. Souvenez-vous que les animaux qui sortirent de l'arche devaient coloniser la terre. Il était donc essentiel de choisir de jeunes animaux. Il est réaliste de penser que Dieu n'a envoyé vers l'arche que de jeunes animaux avec encore un bon potentiel de croissance, voyez-vous. Pourquoi ne voyons-nous plus de dinosaures aujourd'hui? Eh bien, à la fin du déluge, Noé, sa famille et les animaux sortirent de l'arche. Genèse chapitre 8, versets 15 à 17. Une nouvelle vie commença donc pour les dinosaures dans un nouveau monde. Comme les autres animaux, les dinosaures devaient se reproduire et coloniser la Terre. Ils quittèrent la région où l'arche s'était échouée et se répandirent sur la surface de toute la Terre. Ce sont les descendants de ces dinosaures qui donnèrent naissance aux légendes de dragons. Mais ce monde qu'ils devaient coloniser était très différent de celui qu'ils avaient connu avant, car le déluge l'avait dévasté. Le nouveau monde était beaucoup moins convivial. Après le déluge, Dieu dit à Noé qu'à partir de maintenant, les animaux le craindraient et qu'il lui est permis de manger leur chair. Genèse chapitre 9, versets 1 à 7. Mais pour l'homme aussi, le nouveau monde était devenu très hostile. Pour sa survie, l'alimentation végétale, jadis à portée de main, devait maintenant être complétée par la chair d'animaux. Ce nouveau monde allait mettre à rude épreuve la capacité de survie des hommes et des animaux. Les fossiles, l'histoire écrite et l'expérience des derniers siècles montrent que beaucoup de formes de vie sur cette planète n'ont pas réussi l'épreuve. Il faut se souvenir que beaucoup de végétaux et d'animaux terrestres ayant souffle de vie se sont éteints depuis le déluge, soit à cause du facteur humain, soit à cause d'espèces concurrentes, soit à cause du rude environnement post-diluvien. Et de nombreux groupes s'éteignent encore actuellement. Les dinosaures semblent faire partie des groupes éteints. Pourquoi alors ces dinosaures intriguent-ils tant de personnes? Pourquoi l'extinction de centaines de plantes, de végétaux, sans compter des plantes médicinales, eh bien, ne passionne-t-elle pas tellement les foules? C'est curieux. Les dinosaures passionnent et ils fascinent, car on voit en eux des monstres. Si vous deviez demander à un gardien de zoo, et ils en connaissent quelque chose, pourquoi il existe des programmes de sauvetage des espèces menacées, ils vous répondraient sans doute à peu près ceci, mais c'est normal, car beaucoup d'espèces ont déjà disparu de la Terre. Le tigre aux dents de sabre est beaucoup plus puissant, il était beaucoup plus puissant que l'actuel tigre a également disparu, sans compter d'autres animaux qui étaient, il y a encore que environ 3-4 siècles, sur la Terre. Mais ce monde, voyez-vous, il va à la dérive et cela arrivera comme c'est écrit, regardez tous ces animaux qui disparaissent pour toujours. Il faut faire quelque chose pour les sauver. Et si vous lui posez ensuite la question, soit à un gardien de zoo ou quelqu'un qui travaille avec les animaux. Pourquoi des animaux disparaissent-ils? Sa réponse sera probablement, mais c'est évident. Des hommes, sans compter les braconniers, les tuent. Ils mangent donc ces animaux, ou ils les vendent pour la peau, ou encore pour l'ivoire, etc. Et il manque tellement de nourriture dans certains pays, l'homme détruit leur habitat. Les maladies font des ravages. Il y a des problèmes génétiques, des inondations, et il y a beaucoup de raisons pour leur disparition. Conclusion, dire oui à la parole de Dieu, la reconnaître pour étant vraie et souveraine, cela dissipe le mystère des dinosaures et décode pour notre bonheur la réalité du monde qui nous entoure. C'est aussi montrer à d'autres que la Genèse est digne d'une confiance absolue et propre à fournir des réponses logiques. C'est montrer qu'elle est, en somme toute, ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire le récit véritable de l'histoire de l'univers et de l'humanité. Comme on juge la Genèse, eh bien on juge le reste de la Bible. On acquiert une nouvelle image de soi-même et des autres, une vision claire de la vie et surtout de son propre besoin de salut. N'oublions jamais cela. Chers amis, voyez-vous, je ne prétends pas du tout de connaître tout et avoir la réponse à tout. Je peux me tromper. La Bible confirme qu'en tant qu'humains, nous resterons limités puisque nous ne vivons pas des milliers d'années avec une expérience phénoménale, mais notre vie est plus ou moins courte. Par contre, j'ai une conviction profonde de savoir par la Bible que j'avais besoin d'être sauvé. Voyez-vous, tout au long de la Bible, on retrouve constamment, sous-entendu, sinon expressément mentionné, deux faits concernant le Dieu trinitaire. Le premier, c'est qu'il est roi, donc monarque absolu de l'univers. Il en règle le cours et manifeste sa volonté au travers des événements qui se déroulent. Le second, c'est qu'il nous parle. Il parle pour exprimer sa volonté afin de l'avoir accomplie. Le premier thème relatif à l'autorité de Dieu a été abordé au cours des thèmes précédents. Et nous, nous attacherons, chers amis, maintenant à l'étude du second thème qui touche à la parole de Dieu. L'étude de ce second thème nous permettra en fait de mieux comprendre le premier, car s'il nous faut considérer les relations de Dieu avec le monde qu'il a créé en fonction de sa souveraineté, celle-ci doit à son tour être considérée en fonction de ce que la Bible nous dit de la parole de Dieu. Un monarque absolu, comme c'était le cas de tous les rois d'autrefois, s'adressera généralement à son peuple de deux façons. D'une part, il promulguera des lois et des arrêtés qui fixeront clairement le cadre judiciaire, fiscal ou culturel dans lequel ces sujets devront dorénavant vivre. D'autre part, il prononcera des allocutions publiques afin d'établir, autant qu'il est possible, un lien personnel entre lui et ses sujets, et d'obtenir ainsi d'eux le maximum de soutien et de coopération dans ces entreprises. Alors, selon la Bible, la parole de Dieu possède aussi cette double caractéristique. Dieu est le roi, nous sommes ses créatures, nous sommes donc ses sujets. Sa parole concerne aussi bien notre environnement que nous-mêmes. Dieu parle à la fois pour fixer notre cadre de vie et pour gagner nos cœurs et nos esprits. Et dans le premier cas, celui qui concerne le domaine de la création et de la providence, la parole de Dieu s'exprime sous la forme d'ordre souverain. Qu'il en soit ainsi, etc. Dans le second cas, celui où la parole de Dieu est adressée personnellement, elle prend la forme d'une Torah, on peut dire d'une Torah royale. Torah est un mot hébreu traduit dans l'Ancien Testament par loi, mais qui signifie en réalité instruction sous ses formes les plus diverses. Dans la Torah de Dieu, on distingue trois éléments, des lois au sens étroit du terme, d'ordre et d'interdiction assorties de sanctions, des promesses positives ou négatives, conditionnelles ou non, et des témoignages, des indications données par Dieu lui-même ou par des hommes à propos de leur action, de leur dessein, de leur nature et de leur espérance. La parole que Dieu nous adresse ainsi directement, un peu comme un discours royal, n'est pas seulement un instrument de gouvernement, elle est aussi un moyen d'entrer en communion avec l'homme. Car bien que Dieu soit un grand roi, il ne désire pas vivre à l'écart de ses sujets. Bien au contraire, il nous a créés pour que nous puissions, nous et lui, marcher ensemble pour toujours dans l'amour. Mais une telle relation ne peut s'instaurer sans que les parties en cause se connaissent au moins un peu. Alors Dieu, notre Créateur, connaît tout de nous sans que nous ayons rien à lui dire, selon le psaume chapitre 139, versets 1 à 4. Mais nous ne pouvons rien connaître de lui s'il ne se révèle. Alors Dieu nous parle donc pour une autre raison, non seulement pour nous inciter à faire sa volonté, mais aussi pour que nous puissions le connaître et l'aimer. Et c'est pourquoi Dieu nous a fait connaître sa sainte parole sous ce double aspect d'information et d'invitation. Cette parole vise tout autant à nous attirer qu'à nous instruire. Donc, elle ne nous apprend pas seulement ce que Dieu a fait et fait encore, mais elle nous appelle aussi à une communion personnelle avec le Seigneur qui nous aime. Dans les trois premiers chapitres de la Bible, nous voyons comment la parole de Dieu est liée à notre monde. Étudions d'abord le récit de la création au premier chapitre de la Genèse. Et ce chapitre a en partie pour but de nous convaincre que chaque élément de notre environnement naturel a été mis en place par Dieu. Le premier verset énonce le thème que va développer la suite du chapitre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le second verset définit l'état du monde d'alors, puis commence l'analyse détaillée de l'œuvre de Dieu. Le monde, à cette époque, est un monde de désolation, d'où toute vie est absente. Un monde de ténèbres, complètement envahi par les eaux. Et puis le verset 3 nous rapporte qu'au sein de ce chaos désertique, Dieu parle et Dieu dit que la lumière soit. Qu'arrive-t-il alors ? Eh bien, immédiatement, la lumière fut. À plusieurs reprises, ensuite, verset 6, verset 9, les versets 11, 14, les versets 20, 24 et 26. Retentit donc la parole créatrice de Dieu, qu'il y ait, et peu après, les choses se créent et s'ordonnent. J'ai dit bien, Dieu a dit qu'il y ait la vie. La distinction se fait entre le jour et la nuit, au verset 5. Le ciel et la mer, verset 6. La mer et la terre, au verset 9. Et ensuite, la végétation, verset 12. Les corps célestes, verset 14. Les poissons et les oiseaux, verset 20. Les insectes et les animaux, verset 24. Et enfin, l'homme lui-même, au verset 26, font donc leur apparition. Tout a été créé par la parole de Dieu. Et vous pouvez noter le psaume 33, verset 6 et le verset 9, ainsi que Hébreux, chapitre 11, verset 3, et la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 5. Mais l'histoire se poursuit et nous fait franchir une nouvelle étape. Dieu parle à l'homme et à la femme qu'il a créée, et Dieu leur dit, etc. Là, vous notez le verset 28. Dieu s'adresse ici directement à l'homme. Dieu et les hommes sont donc entrés en communion. Notons bien la façon dont Dieu s'adresse à l'homme dans la suite de l'histoire. La première parole de Dieu à Adam et Ève est un ordre. Il leur ordonne de remplir leur vocation d'homme et de femme en gouvernant l'ordre des choses créées. Soyez féconds et dominez. Verset 28 toujours. Et puis suit une parole de témoignage, voici, verset 29, et au cours de laquelle Dieu explique que la végétation, les céréales et les fruits ont été faits pour que l'homme et les animaux les mangent. Nous rencontrons ensuite une interdiction assortie d'une sanction. Il est dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2, verset 17. Enfin, après la chute, Dieu s'approche d'Adam et Ève pour leur parler à nouveau. Et cette fois-ci, ces paroles sont des promesses. C'est des promesses positives, mais aussi négatives. Car s'il promet, d'une part, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, d'autre part, il condamne Ève à des enfantements douloureux et Adam à un travail décevant et tous les deux à une mort inéluctable, selon la Genèse chapitre 3, versets 15 à 20. Dans ces trois brefs chapitres, nous voyons la parole de Dieu en relation avec le monde et avec l'homme en particulier. D'une part, elle situe l'homme dans son état et dans son environnement, et d'autre part, elle exige de l'homme son obéissance, sollicite sa confiance et lui dévoile la pensée de son Créateur. Le reste de l'Écriture sainte contient maintes paroles de Dieu à l'homme, mais celles-ci ne remettent jamais en cause les différentes relations qui ont été établies entre Dieu et l'homme. En Genèse, au chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Elles ne font que les reprendre et pour les confirmer. Ainsi donc, d'une part, la Bible tout entière insiste sur le fait que c'est la parole de Dieu qui décide de tout ce qui se passe dans le monde. La parole du Dieu créateur est omnipotente. Qu'il y ait, a-t-il dit, etc. Les Écritures présentent tout ce qui se passe dans le monde comme l'accomplissement de la parole de Dieu, des variations météorologiques, selon le psaume 147, versets 15 à 18, et le psaume 148, verset 8. À l'ascension et à la chute des nations, tout cela est écrit, et c'est la parole de Dieu qui détermine réellement les événements du monde. Ce fut d'ailleurs la première leçon que Dieu enseigna à Jérémie lorsque il l'appela à devenir prophète. « Regarde, lui dit Dieu, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Jérémie chapitre 1 verset 10. Comment était-ce possible? Jérémie n'avait pas été appelé à être un homme d'État ou un potentat, mais un prophète tout simplement, c'est-à-dire le coursier de Dieu, verset 7. Comment pouvait-on dire d'un homme sans position officielle et dont le seul travail consistait à parler, qu'il était désigné par Dieu pour régner sur les nations? Tout simplement parce que les paroles qui sortaient de sa bouche étaient celles de Dieu lui-même, verset 9. Et tout ce que Dieu lui ordonnait de dire concernant la destinée des nations se verrait à coup sûr réalisé. Afin que Jérémie en soit bien convaincu, Dieu lui envoya sa première vision. « Jérémie, que vois-tu ? » Il lui a dit Dieu, « Jérémie, que vois-tu ? » « Eh bien, je vois une branche d'amandier. » « Eh bien oui, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Jérémie chapitre 1 verset 11. Par la bouche d'Ésaïe, Dieu proclame la même vérité. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe, chapitre 55, verset 10. Donc, toute la Bible insiste sur ce fait que la sainte parole de Dieu est l'instrument avec lequel il agit dans les affaires humaines. Ce qu'il dit s'accomplit. C'est là une affirmation qui est plus vraie pour Dieu que pour quiconque. Et c'est véritablement la parole de Dieu qui dirige le monde et qui fixe notre destinée. Mais d'autre part, la Bible présente constamment la parole de Dieu comme une parole qui nous est adressée directement et qui possède les trois caractéristiques que nous avons déjà trouvées dans l'épisode du Jardin d'Éden. Elle est tantôt une loi au Sinaï, fréquemment aussi chez les prophètes, dans une grande partie de l'enseignement de Christ et dans les exhortations apostoliques à la repentance, selon Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, et à la fois au Seigneur Jésus-Christ. Notez la première épître de saint Jean, chapitre 3, verset 23. Et tantôt, c'est une promesse d'une postérité et d'une alliance qui a été faite à Abraham, selon la Genèse, chapitre 15, verset 5, ainsi que le chapitre 17, verset 1. Donc, promesse de délivrance hors d'Égypte. Exode, chapitre 3, verset 7. Promesse également de Messie, selon Ésaïe, chapitre 9, verset 6, chapitre 11, verset 1, et du royaume de Dieu. Et là, vous pouvez noter Daniel, chapitre 2, verset 44, et le chapitre 7, verset 13. Et c'est une promesse néo-testamentaire de justification, de résurrection et de glorification accordée aux croyants, tantôt témoignage et instruction divine relative au fondement de la foi et au principe de la piété, délivrée sous forme de récits historiques, sous forme de débats théologiques et de psaumes. Ce qui est souligné dans tous les cas, c'est que la Sainte Parole de Dieu a sur nous une autorité absolue. Il convient de l'accepter, de lui faire confiance et de lui obéir, parce qu'elle est la parole de Dieu. Par essence, l'impiété et l'entêtement orgueilleux d'un méchant peuple qui refuse d'écouter la parole de Dieu. Notez Jérémie, chapitre 13, verset 10. Alors le signe de la véritable humilité et de la véritable piété est là, tout simplement, la crainte de la parole de Dieu. Je répète, le signe de la véritable humilité et de la véritable piété, c'est la crainte de la parole de Dieu. Et là, vous pouvez noter Ésaïe, chapitre 66, verset 2. Mais l'autorité de la parole de Dieu sur nous ne lui vient pas seulement de la position de créature et de sujet que nous occupons vis-à-vis de Dieu. Nous ne devons pas la croire et lui obéir uniquement parce que Dieu nous le dit, mais aussi et surtout parce qu'elle est vraie. Elle est la sainte parole du Dieu de vérité. Notez Psaume 31, verset 6, ainsi que Ésaïe, chapitre 65, verset 16. Le fondement de ta sainte parole est la vérité. Notez le Psaume 119, verset 160. Ensuite, il est dit, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Notez 2 Samuel, chapitre 7, verset 28. Et c'est pourquoi ta parole est la vérité. Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Donc, dans la Bible, la vérité est d'abord une qualité personnelle avant d'être une qualité d'expression. Elle implique la solidité, la sûreté, l'honnêteté, la fermeté et la fidélité. C'est la qualité d'un être parfaitement conséquent, sincère, réaliste et lucide. Et c'est bien ainsi qu'est notre Dieu dans ce sens. La vérité fait partie de sa nature et il ne peut être que vrai. C'est pourquoi il ne peut mentir jamais. Notez Nombre, chapitre 23, verset 19, ainsi que 1 Samuel, chapitre 15, verset 29, et Hébreux, chapitre 6, verset 18. C'est donc pourquoi ce qu'il nous dit est vrai et ne peut être que vrai. Ces paroles sont pour nous révélatrices de la réalité. elles nous font découvrir les choses telles qu'elles sont en réalité et telles qu'elles seront pour nous dans l'avenir, selon que nous tiendrons compte ou non de sa sainte parole. Essayons de voir, chers amis, cela d'un peu plus près et, si vous le voulez bien, sur deux plans. Premièrement, les commandements de Dieu sont vrais. Oui, tous les commandements sont la vérité. Psaume 119, verset 151. Pourquoi on peut dire d'abord parce qu'ils exposent de façon invariable et permanente ce que Dieu désire découvrir dans la vie des hommes dans tous les siècles. Ensuite, parce qu'ils nous enseignent des vérités immuables concernant notre propre nature. Si Dieu nous a fait connaître sa loi, c'est en partie pour que nous ayons une définition acceptable de l'humanité véritable. Cette loi nous montre ce que l'homme aurait dû être. Elle nous apprend à être véritablement homme et nous met en garde contre l'autodestruction morale. Et c'est là un sujet très important et qui mérite à l'heure actuelle d'être pris très sérieusement en considération. La comparaison de nos corps à des machines nous est familière. Comme elles, nos corps ont besoin à intervalles réguliers de nourriture, de repos et d'exercice pour bien fonctionner. Mais ils risquent, si on leur donne de mauvais carburants, tels que des alcools forts à répétition, des drogues et même certains poisons, de ne plus pouvoir fonctionner normalement et finalement de caler définitivement dans la mort physique. Ce que nous avons peut être plus de peine à saisir, car on a parfois beaucoup de peine à saisir certaines réalités, c'est que Dieu désire nous voir considérer nos âmes de la même façon. En tant qu'être doué de raison, nous avons été créés pour refléter l'image morale de Dieu, c'est-à-dire que pour fonctionner normalement, nos âmes ont besoin d'adorer Dieu, d'observer sa loi, d'être fidèles, honnêtes, soumises, maîtresses d'elles-mêmes et de servir Dieu et les hommes. Si nous abandonnons tout cela, nous sommes non seulement coupables devant Dieu, mais nous détruisons aussi peu à peu nos âmes. La conscience, elle va s'atrophier, les sentiments de honte vont disparaître, les capacités de loyauté, de fidélité et d'honnêteté vont s'amenuiser et le caractère va se désagréger. Nous voyons cela. Si vous lisez les journaux et si vous regardez votre télé, c'est épouvantable tout ce qui se passe. Nous ne sombrons pas seulement dans un profond désespoir, mais nous déshumanisons petit à petit ce qui est un aspect de la mort spirituelle, que vous le voulez croire ou pas. L'alternative qui s'offre aux hommes, c'est être un saint ou une brute, ce qui est, en définitif, le seul choix possible, et tôt ou tard, consciemment ou non, chacun est amené à le faire. De nos jours, certains prétendent, au nom de l'humanisme, que la position puritaine de la Bible en matière de moralité sexuelle gêne l'accès à une véritable maturité humaine et qu'un peu plus de licence contribuerait à un enrichissement de la vie. Voyez-vous cela? Nous bornerons à dire que le véritable nom de cette doctrine merveilleuse n'est pas l'humanisme, mais le bestialisme. le laxisme sexuel ne rend pas plus humain, bien au contraire. Il abrutit l'homme et lui met l'âme en pièces. On pourrait dire la même chose chaque fois que l'un des commandements de Dieu est méprisé. Nous ne vivons des vies véritablement humaines que dans la mesure où nous nous efforçons d'observer les saints commandements de Dieu et seulement dans cette mesure-là. Deuxièmement, les promesses de Dieu, elles sont vraies car Dieu les tient. Celui qui a fait la promesse est fidèle, nous est-il dit dans Hébreux au chapitre 10, verset 23. La Sainte Bible emploie pour affirmer la fidélité de Dieu un vocabulaire à caractère superlatif. Ta fidélité atteint jusqu'au nu. Psaume 36, verset 6. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Alléluia. Psaume 119, verset 90 ou 90. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentations, chapitre 3, verset 23. Comment la fidélité de Dieu se manifeste-t-elle? Eh bien, c'est par l'infaillibilité ou l'infaillible accomplissement de ses promesses. Dieu est un Dieu qui respecte son alliance. Il ne déçoit jamais ceux qui ont fait confiance en sa sainte parole. Abraham a fait l'expérience de la fidélité de Dieu. Lui, qui déjà vieux, a dû attendre un quart de siècle la naissance de l'héritier promis. Et des millions d'autres hommes en ont fait depuis l'expérience à leur tour. À l'époque où la Bible était reconnue par toutes les églises comme la sainte parole de Dieu écrite, il était évident pour tous les chrétiens que les promesses de Dieu rapportées dans les saintes écritures étaient les assises mêmes d'une vie de foi, des assises posées par Dieu lui-même, et l'on considérait que la meilleure façon de fortifier sa foi était de s'appuyer sur les promesses qui s'appliqueraient tout spécialement à la situation où l'on se trouvait. Les puritains Samuel Clarke ont écrit ceci: « Fixer constamment son attention sur les promesses et y croire fermement, c'est le meilleur moyen d'éviter l'inquiétude et l'anxiété que causent les difficultés de l'existence d'aujourd'hui. Cette attitude permet de garder l'esprit calme et serein au travers de toutes les vicissitudes, de ne pas se laisser abattre par tous les soucis de la vie. Voilà le stress infernal qui monte de partout. Les chrétiens se privent eux-mêmes de leur plus puissant réconfort lorsqu'ils oublient totalement ou mettent en doute les promesses de Dieu. Car il n'est pas de détresse si grande qui n'ait la promesse appropriée grandement suffisante pour la soulager. Une connaissance approfondie des promesses divines serait d'une aide considérable pour la prière. Quel encouragement pour un chrétien qui s'adresse à Dieu que de savoir par ce que l'Écriture sainte le lui affirme à plusieurs reprises que ses prières seront entendues. Quelle joie pour lui et pour elle que d'exprimer devant Dieu les desseins et les désirs de son cœur lorsqu'il sait que l'Écriture sainte promet de lui accorder les grâces qu'il sollicite. Il peut donc, alors, prier. Elle peut prier avec un esprit fervent et une foi solide, car il ou elle se réclame des promesses miséricordieuses qui s'appliquent exactement à sa situation. Et voilà ce que l'on comprenait fort bien autrefois, mais la théologie libérale, en refusant de voir dans l'Écriture sainte la parole de Dieu, nous a en grande partie détournés de l'habitude de méditer sur les promesses divines et de fonder sur elles nos prières et d'oser vivre notre foi dans la vie quotidienne avec autant de hardiesse que ces promesses nous le permettent. Aujourd'hui, on se moque des boîtes à verser de nos ancêtres. Ils ont existé. J'en ai même vu, il se peut que ces boîtes aient donné lieu parfois à des abus, mais elles témoignent d'une approche de l'Écriture sainte et d'une conception de la prière qui était juste. Il semble que nous ayons perdu là quelque chose que nous aurions bien besoin de retrouver. Chers amis, avant de terminer par la prière, qu'est-ce que un chrétien? La définition peut varier suivant l'angle sous lequel on envisage la question. Mais après ce que nous venons de dire, il est certain que nous nous résumerons bien en le définissant comme un homme, une femme, qui reconnaît l'autorité de la Sainte Parole de Dieu et y soumet, je répète, et que nous soumettons tout cela donc à sa vie. Nous devons nous soumettre à Dieu, croyons à son enseignement, c'est important, et de se confier en ses promesses et de obéir à ses commandements. Et il se soumet sans réserve à la parole de Dieu écrite dans le livre de la vérité, nous est-il dit de Daniel, il s'est soumis sans réserve à la parole de Dieu écrite dans le livre de la vérité. Et notez Daniel, chapitre 10, verset 21. Il voit dans le Dieu de la Bible tout simplement son Père et dans le Christ de la Bible son merveilleux sauveur. Si vous l'interrogez, il vous dira que la parole de Dieu l'a à la fois convaincu de péché, c'est ce qu'il a fait pour moi, et assuré du pardon. Sa conscience est comme l'état, comme l'était, excusez-moi, je répète, sa conscience est comme l'était celle de Luther, le fameux Luther, Calvin, etc., captive de la parole de Dieu. Et comme le psalmiste, il espère y conformer sa vie tout entière. Puissions-nous, mes amis, et puissent nos actions être bien réglées afin que nous puissions garder ces statuts. Ne me laisse pas égarer, loin de tes commandements, est-il dit, et enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Incline mon cœur vers tes préceptes divins. Et là, vous pouvez noter ce que David avait reçu dans son cœur, le psaume 119, verset 5, verset 10, verset 26, verset 36 et même le verset 80 du psaume 119. C'est merveilleux ce que David nous dit. Il dit « Enseigne-moi tes statuts, ô Éternel. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Incline mon cœur vers tes préceptes divins. » Les promesses sont dans sa pensée lorsqu'il prie et les préceptes lorsqu'il marche parmi les hommes. Il sait que la sainte parole de Dieu lui a été adressée directement au travers des saintes écritures. Mais pour cela, il faut la lire et pas seulement la laisser sur une étagère ou à la cave dans une malle en bois ciselée, merveilleusement plein de poussière. Mais il sait aussi que cette même sainte parole a également créé tout ce qui l'entoure et qu'elle continue de contrôler et de diriger toute la création. Comme l'Écriture sainte lui dit que toute chose concourt à son bien, la pensée que Dieu dirige toutes ces circonstances ne lui apporte que de la joie. C'est un homme, on peut dire, indépendant maintenant. C'est un homme devenu indépendant, car la sainte parole de Dieu lui sert de pierre, de touche, pour éprouver toutes les idées auxquelles il est confronté et comment. Et il ne fera rien que l'Écriture sainte n'approuve. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, parmi tous ceux qui professent être chrétiens, il y en ait si peu qui répondent à cette description? Il serait bon d'interroger notre conscience et de la laisser répondre afin d'une façon véritable et sans détour. Cher Jamy, nous allons donc terminer par la prière et peut-être je vous mettrai encore un chant d'autrefois, il y a près de 50 ans. C'est évidemment un peu usé tout cela. Prions maintenant ensemble. Ô notre Dieu, élève-toi-même nos cœurs et nos pensées vers ces choses invisibles qui sont éternelles. Donne-nous de nous affectionner aux choses qui sont en haut et non point à celles qui sont sur la terre. Détache nos cœurs de tout ce qui est terrestre et passager et que nous soyons fondés et enraciné en toi qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ô, que nous sommes heureux de te connaître, Seigneur. Quelle grâce tu nous as faite de te révéler à nous. Nous t'invoquons pour tous ceux dont le cœur appartient encore au monde et qui poursuivent des choses qui n'ont que l'apparence, surtout pour les membres de nos familles qui ne te connaissent point encore. Tourne leur cœur vers toi, auteur de source de tout bien. Révèle-toi à eux comme leur Dieu sauveur, seul capable de satisfaire leur cœur et de pacifier leur conscience. Rends-nous fidèles envers eux, Seigneur, fidèles dans notre témoignage, fidèle dans notre vie, afin qu'elle soit elle-même un témoignage vivant. Nous te prions aussi pour les affligés qui souffrent loin de toi, sans Dieu et sans espérance. Ô Seigneur Jésus-Christ, approche-toi d'eux, sers-toi de leur souffrance même pour les appeler à toi. Montre-leur qu'il n'y a aucune proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui doit être manifestée, et que ta présence et ton amour peuvent adoucir la peine la plus amère. Exauce-nous, Seigneur, oh oui, pour l'amour de tes compassions. Ainsi soit-il. Amen. Amen.
Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël.